Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et permettez-nous avec Céline qui est à... aux commandes de cette matinale depuis la rentrée. De...
Alors, si je peux me permettre, et je suis désolée de commencer l'année comme ça, en vous reprenant Pascal, mais nous ne sommes plus le matin. Il est midi.
Il est midi. Et donc, permettez-moi donc de vous, comment dire, de vous saluer et de vous... vous m'avez déconcentré.
Je suis désolée,
et de vous souhaiter
ça
surtout
mal.
Une très bonne année. Voilà, une très bonne année. Céline, bien sûr, à vous, comme à tous les auditeurs d'RTL. Très belle année à tous. Nous sommes ensemble donc pour 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30. L'information jusqu'à 13h, c'est avec vous donc, Céline. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Du Vatican au Brésil, l'émotion et le recueillement aujourd'hui pour deux hommes qui auront marqué leur siècle et à qui des dizaines de milliers de personnes s'apprêtent à rendre hommage. Le pape Benoît XVI d'abord, qui repose désormais sous les ordres de la basilique Saint-Pierre à Rome. Et puis le roi Pelé, à qui les Brésiliens s'apprêtent à rendre hommage toute la journée dans sa cathédrale, son stade du Santos FC. On sera évidemment sur place avec nos envoyés spéciaux. Dans l'actualité également, les changements du 1er janvier, à la fin du timbre rouge, l'arrivée du chèque carburant notamment, et puis des pistes de ski obligées de fermer leurs portes début janvier, car le réveillon au balcon, ce n'est pas bon pour les stations.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part à Lens avec des supporters des Sang et Or euphoriques au lendemain de la victoire contre le Paris Saint-Germain. RTL vous le révélait ce matin, les parcours de vie de quatre nouveaux grands criminels vont être passés au crible par le pôle Cold Case. L'espoir pour des familles de voir enfin leurs affaires élucidées. En quoi est-ce si révolutionnaire? On vous expliquera tout dans une dizaine de minutes. À midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien aujourd'hui. Le choix cornélien du prénom. Comment s'appelleront les bébés de 2023? Y aura-t-il beaucoup de Pascal?
Il n'y en a plus.
Réponse à suivre. Enfin, juste avant 13h, LVT midi, RTL a abandonné, vous le savez, sa diffusion en grandes ondes. L'occasion de revenir sur le rôle méconnu qu'ont pu jouer nos émetteurs pendant la Seconde Guerre mondiale. La question du jour à présent sur notre site RTL.fr. Avez-vous pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année?
Oui, être un peu plus concentré, mais manifestement, ça a mal commencé. Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole. J'ajoute ce sujet sur la Légion d'honneur. Je suis toujours passionné par la Légion d'honneur. Est-ce qu'elle a encore un sens? Vous pourrez nous donner votre avis.
Avant ça, la météo avec vous, Louis Baudin. Bonjour.
Bonjour Céline.
Et
bonjour,
bonne année, Pascal. Évidemment.
Bonne année.
Merci. On parlait de la douceur dans les stations de ski. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi? C'est doux encore?
Cet après-midi, c'est encore doux, même si les températures tout de même baissent un peu par rapport à ce week-end incroyable. Et puis la pluie, principalement dans les régions de l'Est et un petit peu de neige dans les Alpes.
Merci Louis, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Des milliers de personnes affluent depuis ce matin au Vatican pour rendre un dernier hommage à Benoît XVI, pape émérite, décédé samedi à l'âge de 95 ans et dont le corps est désormais exposé sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome, Marie Guerrier.
Pas besoin de prendre de ticket, il faut juste être patient. La foule serpente entre les barrières sur la place Saint-Pierre où trône encore le sapin et l'immense crèche de Noël. Dans la basilique, la dépouille de Benoît XVI repose au pied de l'autel, tout au bout de la nef, longue de 190 mètres. Il faut donc remonter cette grande allée. Gaëlle vient de passer quelques minutes à l'intérieur.
C'est assez impressionnant parce qu'il y a une longue ligne de personnes qui font la queue et ils passent chacun notre tour. Il est présenté devant le baldaquin.
Il est vêtu de rouge.
Il est vêtu rouge. Rouge et blanc avec des couleurs papales. Il nous demande d'avancer par respect et pour que tout le monde puisse aussi faire sa prière devant lui.
Gaël et son ami venaient initialement visiter la basilique. Ils ont eu le sentiment de vivre ce matin un moment historique. Pour le père Diego Cordoba, l'instant était beaucoup plus spirituel. Il accompagnait un groupe de jeunes.
On voulait faire cet acte de remerciement pour le pape Benoît. C'est un pape qui nous a donné beaucoup d'exemples avec sa simplicité, avec sa profondeur. Nos groupes, ils étaient très silencieux, ils ont prié, ils ont fait le chapelet, c'était très bien, on était très contents. C'était très solennel.
La basilique sera ouverte jusqu'à 19h. Les visites de recueillement pourront se poursuivre demain et mercredi.
Marie Guerrier au Vatican pour RTL. Des milliers de personnes attendues aussi au stade de la ville de Santos pour rendre hommage au roi Pelé, lui qui a fait les grandes heures du club pendant près de 20 ans. On sera sur place dans le journal de midi et demi.
En Ukraine, 2023 débute comme s'était achevé 2022, sous les bombe.
Avec une nouvelle attaque aérienne ce matin sur Kiev. Restez dans les abris, intimes les autorités aujourd'hui encore. Émilie Beaujard, les drones russes continuent en effet de semer la terreur et de détruire les sites stratégiques.
Oui, nouvelle attaque en pleine nuit. 22 drones abattus au-dessus de Kiev sur les 40 envoyés vers la capitale ukrainienne. Certains engins ont donc touché leurs cibles et notamment des infrastructures énergétiques. Résultat, une partie de la capitale est privée d'électricité et de chauffage. L'alerte aérienne a été déclenchée pendant presque 4 heures, demandant aux Ukrainiens de descendre dans les abris ou de s'abriter derrière au moins 2 murs chez eux. Ces nouvelles attaques russes contre Kiev interviennent alors que l'armée ukrainienne a annoncé hier avoir détruit un bâtiment où étaient stationnés des soldats russes dans la région de Donetsk. 400 militaires russes seraient morts dans cette frappe, selon les Ukrainiens. Les Russes, eux, avouent simplement un nombre important de morts et de blessés.
Émilie Beaujard du service étranger d'RTL.
RTL Midi.
C'est l'un des grands changements de cette nouvelle année. La France a dit adieu à sa célèbre Marianne Rouge.
Terminé, oui, le timbre prioritaire. La Poste change son offre. Nerissa Imani, bonjour.
Bonjour.
Depuis hier, donc, les courriers les plus urgents. Pour cela, il vaut mieux passer par le clavier.
Oui, direction le site internet laposte.fr. Vous devez désormais rédiger, taper votre courrier en ligne. Il est aussi possible d'importer directement un document, une image depuis votre ordinateur ou de choisir parmi des modèles de lettres déjà toutes faites proposées par La Poste. Alors pour cette nouvelle lettre électronique, cela vous coûtera 1,49€ pour 3 feuilles recto verso maximum. Vous avez jusqu'à 20 heures pour que votre courrier soit distribué le lendemain. C'est le bureau de poste le plus proche du destinataire qui se chargera de l'imprimer. Et la confidentialité est garantie, selon Philippe Dorge, directeur du service courrier à La Poste.
En tout cas, c'est en totale confidentialité. Hein. Le document ne reste pas sur le serveur local. Et puis, c'est imprimé, mis sous pli, affranchi, dans un local sécurisé, dans une plateforme régionale qui est complètement fermée, sécurisée.
Fini donc le transport en avion, 3 allers-retours quotidiens pour ces lettres prioritaires. Cette lettre électronique est donc plus écologique, selon La Poste. Et pour info, s'il vous reste des timbres rouges chez vous, ils sont toujours utilisables. En revanche, votre courrier sera distribué comme une lettre verte en 3 jours.
Merci beaucoup, Nerissa Imani. Vous sens sceptique, Pascal ?
Non, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Je pense surtout à ceux qui n'ont pas accès aux ordinateurs et les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas aussi doués que la jeune génération.
Pour ces personnes-là, elles pourront se rendre directement dans le bureau de poste où un agent les aidera à rédiger leur courrier.
Et puis sinon, vous avez toujours le fameux timbre vert.
Bien
merci,
sûr.
Nerissa. Parmi les autres nouveautés de ce début janvier, le SMIC augmente, une hausse de 1,8%, soit 24 euros net par mois pour un temps plein. Et puis si la ristourne gouvernementale sur le carburant s'est achevé samedi soir. Sachez que vous pouvez d'ores et déjà demander votre chèque carburant, 100 euros par an pour 10 millions de personnes qui ont besoin de leur véhicule pour pouvoir aller travailler. La condition, c'est d'avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 14 700 euros.
On en parlait il y a quelques minutes avec Louis, on va y revenir, vous l'avez forcément remarqué, il fait étonnamment doux pour un mois de janvier et c'est parfois instrumentalisé d'ailleurs politiquement, c'est toujours difficile. Ce sujet à aborder, on est sur des œufs. En clair, est-ce que le climat et la météo peuvent se confondre de temps en temps ?
Alors, vous marchez peut-être sur des œufs, mais dans les stations de ski, il n'est pas toujours très évident de les prendre, ces œufs. Notamment à Gourette, la station de ski située à 1400 mètres d'altitude dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle avait ouvert il y a quelques semaines, Philippe Demaria, mais elle a dû se résoudre à tout fermer hier, faute de neige.
Exactement, la neige tient à seulement 2000 mètres d'altitude. Donc, toutes les pistes qui sont en dessous de cette altitude sont pelé littéralement, triste spectacle pour Philippe Padelli de la station de Gourette.
On a fait ce qu'on a pu, voilà, tout le monde s'est mis à appel la Gourette pour essayer d'enneiger les derniers mètres. Quand on est arrivé tous les matins, il fallait recommencer parce qu'avec le vent et la chaleur, la neige n'a pas tenu.
La station compte 110 employés et 80 saisonniers. Un certain nombre va être placé en activité partielle avec maintien d'une bonne partie du salaire. Pour les commerçants, la fermeture est évidemment douloureuse. Les clients se sont littéralement enfuis durant les vacances, comme l'explique la patronne de l'hôtel de Le Tremplin, qui est situé juste face aux pistes.
Ah, moi, j'ai eu 70% d'annulation. Et là, c'est à zéro. Les clients sont partis ce matin. On attend la neige.
Plus aucun client, pas avant le 15 janvier prochain pour les prochaines chutes de neige potentielles selon donc les dernières estimations de Météo France. Il va falloir que ces professionnels de la neige fassent preuve de patience.
Merci beaucoup Philippe de Maria. La patience, justement, ouais. Philippe disait, il en faudra un petit peu. On s'attend à ce qu'il y ait de nouvelles chutes de neige rapidement sur les Pyrénées, Louis ?
Alors oui, il va y en avoir rapidement. La preuve, il y en a en ce moment-là, vous voyez, sur les Hautes-Pyrénées ou encore du côté de la Haute-Garonne. Alors c'est vrai que c'est pas ça qui va compenser, évidemment, le manque de neige de ces derniers jours. Mais bon, voilà, il y aura quelques flocons, il y en aura un petit peu jeudi. Mais c'est vrai que c'est surtout à partir de samedi ou dimanche prochain qu'on attend là des perturbations beaucoup plus actives, avec de l'air beaucoup plus frais. Et donc ça devrait enfin apporter de la neige de manière conséquente sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Donc encore un peu de patience, ça commencera en fin de semaine prochaine. Pour les autres régions, aujourd'hui, on va avoir le passage d'une perturbation qui se retrouvera cet après-midi principalement des Pyrénées aux frontières de l'Est, avec donc des nuages, de la pluie, un peu de neige, on l'a dit, dans les Pyrénées, un peu de neige à partir de ce soir dans les Alpes à partir de 1800 mètres. Et puis après le passage de cette perturbation, de l'Atlantique aux côtes de la Manche, à l'Île-de-France, on retrouvera quelques éclaircies, mais avec encore un risque d'averse. Et puis les températures, alors ça baisse hein, quand même par rapport au week-end, mais encore 10 à 13 degrés dans la moitié nord, c'est 2-3 degrés au-dessus des moyennes de saison, et 16 à 19 degrés près de la Méditerranée.
Merci Louis.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et on garde les bonnes habitudes évidemment vers 12h10, c'est un jour chez vous. Chaque jour, l'info au plus près de vous. Nous partons pour...
Le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais et Lens où l'on retrouve Franck Hanson. Bonjour Franck.
Bonjour Céline et Pascal, bonjour à tous.
Lens où les sang et or ont donc fait tomber pour la première fois de la saison le PSG, leader parisien hier soir, 3-1, et avec la manière de belles étrennes pour les supporters qui savourent encore.
Oui, hein, et même si le ciel est un peu gris ici, près du stade Bollaert, on a encore tremblé, on a encore vibré, hein, un véritable chaudron hier soir, le soleil ici dans les cœurs, on a la banane, hein, tout le monde en parle ce midi. Quelle victoire donc face aux champions parisiens et ses stars. Lens au plus que parfait, titre aujourd'hui la Voix des Sports. Devant son café, Sébastien, enseignant et fan de foot, savoure.
Bonsoir Paris, 9 matchs à Bollaert, 9 victoires. Qui fait mieux? Personne. Il n'y a que Lens qui fait ça cette année. On a un grand gardien, Sampa, qui fait un arrêt exceptionnel, Fofana qui fait une passe de fou, et l'ambiance, la communion, comme quoi l'argent ne fait pas tout dans le football, ça fait du bien au moral.
Et près de la gare, l'écharpe sang et or encore autour du cou, Xavier, supporter d'Albert dans la Somme, repart des étoiles plein la tête.
On regrette jamais de faire un déplacement à Lens, c'est une équipe courageuse, solidaire, qui mouille le maillot, donc les années qu'on est en train de vivre actuellement sont des superbes années, quoi. Ça tranche avec ce qu'on a connu, et je pense que le peuple lensois mérite justement ce genre de résultat comme hier soir. On est fiers d'être lensois, les lensois sont partout.
Le meilleur public de France hein, qui confirme aujourd'hui.
Lens donc qui rayonne, qui est dauphin de la Ligue 1, mais qui garde ses valeurs, et ses valeurs c'est son identité.
Oui, en effet, hein, Pascal, un club qui revient de loin, qui a connu les profondeurs de la Ligue 2, mais avec des valeurs toujours chères au bassin minier. Pas de star ici, un budget maîtrisé, 11 fois moins gros que le Parisien, et des supporters fidèles comme Muriel, qui regardent encore les images de la soirée.
Là, j'ai encore des larmes, c'est notre force. On n'a pas besoin de vedettes, on a une âme, c'est des copains, c'est des amis, même avec le staff. C'est une grande famille, quoi, comme avant avec Gervais. Bollaert, c'est le Liverpool, c'est l'esprit. Voilà, chaque fois, j'ai des pressions.
L'esprit, c'était hier soir aussi l'entraîneur Francaise avec ses joueurs qui ont communié avec ce public, des supporters attachés à toutes ces valeurs et respectés.
Depuis l'âge de 3 ans, je vais à Bollaert. Moi, c'est ma vie, c'est mon club, c'est mon temple, c'est une religion, quoi. Et moi, mon papa...
C'est dans le sang, quoi, ici.
Ah bah oui, mais ils étaient mineurs. Ouais, c'est dans le sang. On a énormément de valeurs, de respect, tout ça. Tout le monde est au même niveau, je pense. Même les anciens, tout ça, les petits jeunes. On a gardé nos valeurs, puis j'espère qu'on les gardera toujours.
Le Paris Saint-Germain, désormais battu. Les Lensois qui rêvent de nouveaux exploits.
Oui, et pourquoi pas carrément plus haut, hein, parce que même si on garde la tête sur les épaules ici, pourquoi pas en effet rêver à un nouveau titre de champion de France. Le dernier remonte à 1998. Alors pour Sébastien, en tout cas, Lens a les moyens cette année de titiller encore les Parisiens.
Pour moi, c'est peut-être la plus grande équipe du Racing Club de Lens de tous les temps, même si on a été champion en 98 avec des internationaux. On a un entraîneur exceptionnel qui sait manager ses joueurs et qui sait leur parler.
On peut crever, hein, vivement le mois de mai.
Voilà, Muriel et les supporters lensois qui rêvent. En tout cas, au moins une place européenne serait un superbe cadeau pour les lensois en 2023.
Et on entendrait résonner la musique de la Champions League avant le chant des corons. Effectivement, ce serait pas mal. Merci beaucoup, Franck Hanson.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On reviendra sur cette info RTL qu'on vous révélait dès hier matin. Les parcours de vie de 4 nouveaux grands criminels vont être passés au crible par le pôle Cold Case. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Je dis toujours qu'un tueur en série, il a commencé très tôt, il a un parcours criminel, il devient professionnel du crime, et donc il va commencer par des actes moins graves, puis il va avoir des actes beaucoup plus graves jusqu'à l'ultime, mais il y a toute une série d'affaires qu'on ne connaît pas.
Corinne Herman, avocate spécialisée des cold cases, puisque RTL
vous
révèle.
Ce que veut dire cold case, hein. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache précisément ce que ça veut dire.
Une affaire classée, non résolue, et qu'on essaie de relancer pour pouvoir justement expliquer tout ce qui s'est passé. Merci Pascal. RTL vous le révélait donc ce matin, 4 nouveaux parcours de ville grands criminels sont désormais passés au crible par ce fameux pôle cold case au nom de Nordal Lelandais ou encore Patrice Allègre. S'ajoutent désormais ceux de Jacques Ranson ou Pascal Lafolie. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un parcours de vie? Sur quoi ce pôle cold case créé l'an dernier va devoir travailler?
Eh bien, un parcours de vie, c'est s'intéresser en profondeur à un criminel et essayer de retracer dans tout son passé les lieux qu'il a fréquentés, les personnes qu'il a pu côtoyer. On va faire ça quasiment pour chaque jour de sa vie. Et à partir de toutes ces informations, les enquêteurs vont faire des comparaisons avec des crimes non résolus ou des disparitions dans l'espoir qu'à un moment, tout ce travail permette de relier un nouveau crime à ce criminel.
Et en quoi c'est révolutionnaire en France ?
Eh bien parce que c'est une façon de travailler qui est totalement à rebours de ce que les enquêteurs ont l'habitude de faire. En France, quand un crime est commis, on va enquêter sur ce fait, chercher l'auteur, retracer le parcours de la victime, rechercher des indices pour in fine renvoyer le criminel devant la justice pour qu'il soit jugé. Là, avec le parcours de vie, les enquêteurs ne vont plus partir d'un crime, mais d'un criminel. Et c'est ça qui est réellement innovant, le fait que la justice maintenant a le pouvoir de demander aux policiers ou aux gendarmes de faire ce pas fameux parcours de vie.
Ça veut dire, Guillaume, très concrètement, qu'on retrace leur vie quotidienne sur des années entières ?
Exactement. Les enquêteurs vont tout consigner. Qui sont les amis de ce criminel ? Qui sont les personnes qu'il a pu côtoyer plus ponctuellement ? Les différents emplois qu'il a eu ? Les lieux qu'il fréquentait ? Ils vont aussi s'intéresser à ses hobbies, ses passions, ses voyages, mais aussi les différentes voitures qu'il a pu posséder tout au long de sa vie, par exemple. Bref, tout indice, même le plus minime, va être consigné en espérant qu'à un moment, il y ait un déclic.
Alors, je comprends, hein, évidemment, mais je me mets à la place des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent on va mettre des policiers à travailler sur des gens qui sont en prison pour éluder des nouveaux crimes, si j'ai bien
exactement,
compris.
Exactement, des crimes qu'on ne leur connaît pas encore.
Voilà, 4 nouveaux profils vont être étudiés, mais le pôle cold case travaillait déjà sur le parcours de vie de 3 grands criminels, dont Nordal Lelandais. Si on choisit ces hommes, c'est parce qu'on soupçonne à chaque fois, évidemment, d'autres crimes.
Oui, c'est vraiment l'idée de base. Hein. C'est se dire que si un criminel est un tueur ou un violeur en série, il a possiblement fait plus de victimes qu'on ne lui connaît. Dans le cas de Nordal Lelandais, par exemple, on sait que l'ancien maître chien a été condamné pour 2 meurtres qu'il a avoués, celui de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Mais effectivement, la justice se demande s'il n'a pas fait d'autres victimes durant sa vie, d'autant que Nordal Lelandais est un homme retors. Hein. Il avoue que face à des preuves qui sont solides, qui sont irréfutables, les enquêteurs s'intéressent particulièrement à 2 disparition à 1 an d'intervalle au Fort Tamier lors d'un festival de musique que Lelandais fréquentait lui aussi. Ils enquêtent également sur la mort d'un homme en Isère en 2012, 5 ans avant le meurtre de Maëlys. À cette époque, Lelandais vivait déjà dans les environs.
On imagine que cette nouvelle technique d'approche des enquêteurs soulève beaucoup d'espoir pour les familles.
Oui, c'est évident, puisque en France, des centaines de familles de personnes disparues attendent toujours des réponses, des dossiers qui sont vieux parfois de 30, 40, 50 ans même pour le plus ancien. Le problème, c'est qu'en France, on est très bon pour mettre des moyens, pour innover dans les techniques de recherche, comme là, par exemple, avec le parcours de vie. En revanche, on l'est beaucoup moins en ce qui concerne notre mémoire criminelle. L'exemple le plus flagrant, c'est qu'il n'existe pas de fichier national des personnes disparues. Chaque service de police ou de gendarmerie connaît ses dossiers, en tête ses propres affaires non résolues, mais il faudrait un outil commun, une base de données, et ça sera l'un des nombreux enjeux du pôle cold case, réussir à créer un tel fichier.
Merci beaucoup Guillaume Chiez, et si vous voulez en savoir plus, on vous recommande l'écoute du podcast Focus, nouveau pôle cold case de la justice française. Quel espoir pour les familles, c'est à retrouver évidemment sur notre site RTL.fr et sur toutes les plateformes dédiées.
Dans un instant, tout autre chose, RTL Midi Votre Vie, comment vont s'appeler les bébés en 2023. Eh bien, on en parle tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à... RTL Midi. Votre vie.
Votre avis, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Donc, tu trouves qu'Apollin et Myrtille, c'est ridicule.
Tu sais quand même très bien que c'est pas les prénoms normaux.
Apollin et Myrtille, on dirait une chanson de Bobby Lapointe. Cette surenchère dans l'originalité, c'est plus des prénoms, c'est des post-it collés sur le front.
Patrick Bruel et Charles Berling dans le film.
C'est vrai que ça en dit
connu.
Beaucoup, hein, les prénoms des enfants, hein. Bien sûr.
Le
ça
prénom.
En dit beaucoup sur la psychologie des parents, forcément. Et même l'univers social des parents, culturel, intellectuel.
700 000 naissances, un peu plus même en France chaque année, et à chaque fois, effectivement, pour les parents, ce choix parfois cornélien du prénom. Bonjour Claire Tabarly-Perrin.
Bonjour.
Vous êtes l'une des auteurs de l'officiel des prénoms chez First Edition, sorte de bible pour les parents en manque d'inspiration, plus de 12 000 propositions de prénoms. D'abord, quelles sont les grandes tendances du moment? Comment vont s'appeler les bébés français de 2023?
Alors, si on prend les tendances pour les filles, on va dire dans le top 3, il y aura Jade, Louise et Emma. Donc, on va dire que ces trois prénoms, ils sont en concurrence depuis plusieurs années. Chez les garçons, le top 3, c'est Gabriel, Léo et Raphaël. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de considérer en fait les prénoms pour le top 20 et au-delà, juste dans les 100 premiers rangs. Donc, en gros, si on veut une tendance générale, c'est des prénoms courts, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Donc, 4, 5 lettres, 6 rarement. Pour les filles, des prénoms en A. Donc, vous avez Emma. La star absolue cette année, ça va être Alba. Elle arrive vraiment, elle a progressé de plus de 50 places en un an. Et c'est un prénom qui a tout pour réussir, parce que donc, c'est un prénom court, qui se termine en A, qui a une signification assez, on va dire, ça veut dire blanc en fait. Alba, c'est blanc en
c'est
latin.
La pureté, c'est
voilà, exactement. Il y a aussi l'idée d'aube, donc on retrouve cette tendance des éléments naturels, qui est une tendance forte aussi dans les prénoms. Tout ce qui est éléments naturels, tout ce qui est floral, minéral, vous avez agate, ambre. Chez les garçons, vous allez avoir, par exemple, alors là, je parle vraiment pas forcément du top 20, mais
de ce qui monte.
Voilà, de ce qui monte.
C'est vrai qu'RTL aura beaucoup fait hein, pour le prénom Alba, et c'est, je pense, pour cela aussi qu'il est en tête, avec Alba Ventura, qu'on peut écouter évidemment chaque matin sur l'antenne.
Absolument, absolument. Alors, il y a aussi, on peut imaginer, bon, c'est une arrivée vraiment, elle n'a pas encore atteint son zénith, c'est une arrivée sous les sunlight, mais qui est peut-être dû aussi, outre Alba Ventura, à un succès international, en fait, de deux séries qui sont La Casa de Papel, avec l'actrice Alba Flores, hein, qui incarne quand même un personnage assez fort, hein, une version féministe de Robin des Bois, ou alors Las Chicas del Cable, Les Filles du Téléphone, où il y a aussi une Alba, qui est un personnage principal.
Mais Madame Tabarly-Perrin, ce qui me frappe quand même, c'est que ça ne change pas beaucoup, parce que j'ai l'impression que depuis, alors Jade, Louise, Emma, Gabriel, Léo, Raphaël, j'ai l'impression que c'est en tête depuis maintenant quasiment 10 ans. J'ai l'impression que les prénoms composés, ça ne marche plus du tout. Dans les classes, avant, il y avait des Marie-Sophie, des Marie-Christine, des Jean-Claude, des Jean-Philippe. J'ai l'impression que ça n'existe plus du tout.
Alors, en fait, c'est pour ça que j'ai, dès le début, en fait, dit qu'il y avait, effectivement, on se focalise toujours sur le top 3, le top 5, mais c'est vraiment très intéressant de regarder, en fait, les 20, les 50 premiers rangs. Parce que là, ça change beaucoup.
Alors, qu'est-ce qui a changé à part Alba?
Et vous avez vraiment des tendances, vous avez vraiment des tendances de fond. C'est-à-dire qu'il y a les terminaisons en A qui plaisent beaucoup aux parents, mais vous avez à contrario des parents qui vont aller choisir des prénoms dissonants, entre guillemets, pour affirmer une originalité. Donc vous allez avoir Romy, Charlie, Rose. Vous allez avoir chez les garçons, parce qu'on parle beaucoup des filles, donc parlons un petit peu des garçons aussi, une forte présence des prénoms multiculturels, avec Aaron, Noé, Noah. Donc il y a vraiment une source à la fois rétro et multiculturelle. Donc c'est des prénoms, on ne choisit pas des prénoms qui voyagent, on choisit des prénoms d'une certaine... Il y a une mondialisation
Et il y a des prénoms qui ne reviennent jamais, hein. Nous sommes d'accord, des Jacqueline, des Monique, des Roger, des Raymond, j'ai l'impression que ça ne revient pas.
Eh bien non, en fait, ce qui est vrai, c'est qu'on a toujours l'impression que les vieux prénoms ne reviennent pas, mais ce n'est pas vrai. En fait, ils reviennent toujours, c'est juste une durée de vie. Il faut à peu près 4 générations 4 à 5 générations pour qu'un prénom redevienne. Exactement. Alors, donc, Thierry, Brigitte, aujourd'hui, leur sonorité nous paraissent un petit peu désuètes, mais très certainement, nos enfants appelleront ainsi leur prénom.
Alors, on parle là des prénoms qui reviennent sans cesse, mais il y a aussi ces prénoms inventés, créés. C'était la grande tendance, on en parlait il y a quelques années. C'est toujours le cas, la mode des prénoms inventés. Vous en mettez, vous-même, d'une édition à l'autre, de nouveau, dans votre Bible des prénoms ?
Ah mais écoutez, en fait, nous, on a extrait 12 000 prénoms qui sont réellement portés. Sur ces 12 000 prénoms, il y en a 2 000 qui sont portés et attribués à moins de 30 enfants. Donc, ça vous donne quand même une idée. Et nous, on extrait. Donc, en fait, aujourd'hui, pour dresser, j'allais dire, pour appeler tous les enfants nés en France, il faut à peu près 36 000. On a une base de données de 35 à 36 000 prénoms. Donc, et il en fallait 1 700. Avec 1 700 prénoms, en 1900, vous arriviez à nommer toute la France. Maintenant, il en faut à peu près 35.
D'accord.
Soit 20 fois plus. Donc, effectivement.
Donc, il y avait une fille sur 4 qui s'appelait Marie, je crois, au début des années du XXe siècle.
Absolument, ouais, une fille sur 5, voilà, exactement. Et en fait, si vous voulez, la créativité des parents, elle est sans limite. D'abord parce que légalement, ils peuvent donner le prénom qu'ils souhaitent à leur enfant dans la mesure où ils ne lui portent pas préjudice. Donc après, vous avez des variantes. Il y a un peu ça, hein. Le prénom, c'est un peu comme un code génétique. Il peut y avoir des mutations en bougeant des petites lettres. On parlait de Alba, vous avez Alban, Emma... qu'on voit toujours, mais il y a Ella qui marche très fort, Emna, Marcel, c'est Marceau.
Ella, ça a été supprimé. Mais merci en tout cas.
C'était la première blague de l'année. Non. Elle a été signée Pascal Pro. Merci Pascal.
Merci Claire, qui est un prénom intemporel. J'ai l'impression qu'il est donné à chaque génération, comme Louis d'ailleurs, ou comme Pierre. Ce sont des prénoms, me semble-t-il, qui sont hors mode.
On est un peu plus surannés, nous deux. Hein.
Céline et Pascal me paraissent effectivement davantage datés. Mais Louis, non, les prénoms de
roi. Ça avait disparu, puis ça revient.
Oui. Bon, ben vous allez revenir dans une seconde en tout cas, puisque c'est l'info qui revient à 12h30. À tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
RTL midi.
Le 12-30.
Céline Landreau et Pascal Pro.
Et c'est donc l'heure, Céline, de votre grande édition de la mi-journée.
Le Brésil s'apprête à rendre hommage à son dieu du foot. Les supporters vont pouvoir se recueillir devant la dépouille de Pelé au stade du Santos FC. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Les catholiques, eux, se pressent par milliers au Vatican pour saluer leur pape, Benoît XVI, pape émérite, décédé samedi à l'âge de 95 ans. Quel bilan laisse-t-il derrière lui après 8 ans passés à la tête de l'Église catholique? Nous y reviendrons longuement après le journal avec notre envoyé spécial Marie Guerrier. Dans cette édition, également le chèque carburant 100 euros pour 10 millions de personnes qui peuvent d'ores et déjà le demander sur Internet. Parmi les nouveautés de ce début d'année, vous avez aussi une augmentation du SMIC. Ce sera 24 euros net mensuel pour un temps plein. Et puis, on s'arrêtera évidemment sur la galette. Vous avez digéré la bûche, la frangipane arrive, elle n'échappe pas à l'inflation. Et vous verrez qu'entre la galette artisanale et celle du supermarché, il y a quand même une petite différence. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi. RTL a abandonné, vous le savez, sa diffusion en grandes ondes. Nous reviendrons tout à l'heure avec Laurent Marsic sur le rôle méconnu qu'ont pu jouer nos antennes, nos émetteurs pendant la Seconde Guerre mondiale. La question du jour à présent sur notre site rtl.fr. Avez-vous pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année ?
Et cette question, on la posera aux auditeurs tout à l'heure. Nous serons ensemble au 32-10 jusqu'à 14h30.
La météo à la fin du journal pour les prévisions complètes, mais déjà un indice avec vous, Louis.
Oui, avec une perturbation qui traverse la France. Elle sera plutôt dans la moitié cet après-midi, puis en pleine, un petit peu de neige en montagne, et puis des températures toujours au-dessus des moyennes de saison.
Merci, Louis.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
C'est là qu'il a brillé pendant près de 20 ans, son numéro 10 sur le dos. Les Brésiliens s'apprêtent à rendre un dernier hommage au roi Pelé dans son stade du Santos FC. Samuel Duhamel, vous êtes notre envoyé spécial sur place. La dépouille du footballeur est déjà arrivée, accueillie, vous l'entendez, par des chants de supporters et des feux d'artifice. Les portes du stade, elles, ouvriront dans un peu moins d'une heure et demie, Samuel.
Oui, c'est à 10h, heure locale, 14h, heure de Paris, que les supporters venus rendre un dernier hommage au roi Pelé pourront entrer dans le stade Villa Belmiro, le stade mythique de Santos, dans lequel le triple champion du monde a joué pendant 18 ans. Le cercueil de la légende brésilienne est lui arrivé au stade au petit matin. Il va être installé au centre du terrain de Villa Belmiro dans quelques minutes. Deux tonnelles ont également été mises en place sur la pelouse. La première pour les amis, proches et anciens coéquipiers de la star. La seconde pour les personnalités politiques, dont Lula, le nouveau président qui est attendu demain. La cérémonie funéraire est prévue pour durer 24 heures. 24 heures durant lesquelles les admirateurs du roi Pelé, venus parfois de très loin, vont se succéder dans ce petit stade de 20 000 places pour venir rendre un dernier hommage à celui qu'on considère ici comme le plus grand athlète de tous les temps.
Samuel Duhamel à Santos au Brésil, donc pour RTL. Pelé sera ensuite enterré demain dans l'intimité familiale.
Là aussi, des milliers de personnes ont fait le déplacement au Vatican. C'est la mémoire du pape Benoît XVI que l'on vient saluer.
Le pape, oui, qui avait renoncé à sa charge en 2013, c'était un samedi, il avait 95 ans. Son corps est désormais exposé sous les ordres de la basilique Saint-Pierre de Rome avant des funérailles qui auront lieu jeudi. Joseph Ratzinger avait succédé à Jean-Paul II. Il est resté 8 ans à la tête de l'Église catholique. Pour quel héritage ? On y reviendra après le journal avec notre envoyé spécial au Vatican, Marie Guerrier. Kiev, encore une fois sous les bombes. Ce matin, la capitale ukrainienne cible d'une nouvelle attaque aérienne russe. Après une journée du nouvel an, déjà marquée hier par des dizaines de frappes qui ont fait au moins 5 morts.
Et puis ils sont 8 et il faut penser à eux, 8 en ce début d'année. 8 otages français retenus à l'étranger.
Alors ce chiffre de 8 peut vous paraître surprenant, car il y a quelques semaines encore, on ne parlait que d'Olivier Dubois, enlevé en avril 2021 à Gao, au Mali. Mais depuis, Brice Dugénie, on considère que les 7 prisonniers français en Iran sont eux aussi des otages.
Absolument. La diplomatie française considère désormais comme des otages d'État ces 7 Français emprisonnés en Iran. Fariba Adelka, chercheuse détenue depuis plus de 3 ans à Téhéran. Benjamin Brière, lyonnais de 37 ans en détention depuis 2 ans et demi. Cécile Collère et Jacques Paris, couple de Français arrêtés en mai dernier sur le chemin de l'aéroport alors qu'ils quittaient le pays. Ils sont apparus début octobre dans une vidéo mise en scène par le régime iranien. Vidéo dans laquelle ils déclarent sous la contrainte être des membres des services de renseignement. Et puis 3 autres Français dont on ne connaît pas l'identité font également partie de cette liste. Le régime iranien les accuse tous d'espionnage. La France dénonce des motifs mensongers, des mises en scène inacceptables et demande leur libération. Enfin, le 8e otage dans le monde, c'est lui.
Je m'appelle Olivier Dubois. J'ai été enlevé le 8 avril 2021 à Gao.
Vous entendez la voix d'Olivier Dubois, journaliste enlevé dans le nord du Mali par des terroristes islamistes il y a plus d'un an et demi. Une seule preuve de vie a été reçue, c'est ce que vous venez d'entendre. Et ça date de mars 2022. Depuis, plus rien, toujours pas de libération pour ce quadragénaire dont la détention est la plus longue pour un journaliste français depuis plus de 30 ans.
Brice Dugénie du service étranger de RTL.
C'est un mois de janvier assez explosif qui s'annonce pour le gouvernement.
Avec évidemment la réforme des retraites qui pourrait allumer la mèche. Repoussée, elle sera présentée, on le sait, le 10 janvier et ne semble pas soulever un grand enthousiasme pour l'instant, loin de là. C'est l'enseignement de notre grande enquête Toluna Harris Interactive pour RTL. 54% des Français sont défavorables à cette réforme. C'est 13 points de plus qu'en septembre. L'exécutif a donc encore du travail à faire pour convaincre William Gallagher.
Oui, avec en plus des syndicats fâchés comme jamais. On se demande même pourquoi Elisabeth Borne les reçoit une dernière fois à Matignon demain et mercredi, puisqu'ils ont déjà décidé de manifester. Alors quand vous êtes le gouvernement, vous faites comment pour convaincre ? D'abord, vous misez sur la perte d'influence de ces mêmes syndicats. Ils ne contrôlent plus rien, ce ne sont plus eux qui mobilisent les troupes. Regardez ce qui s'est passé à la SNCF à Noël. Et vous espérez un flop des manifs. Et puis pour amadouer les Français, là il va falloir de vraies annonces fortes sur la prise en compte de la pénibilité, sur les carrières longues notamment. D'après nos informations, la Première Ministre planche encore sur ces annonces. En résumé, pas beaucoup de leviers d'action, mais donner le sentiment que les inquiétudes ont été entendues. Même si la réforme est indispensable, il ne reste plus qu'une semaine pour fignoler la copie.
William Galibert du service politique d'RTL.
Et avant d'affronter une éventuelle colère sur le dossier des retraites, le gouvernement va devoir déterminer la grogne des professionnels, déminer plus exactement la grogne des professionnels de santé.
Nouvelle grève des médecins libéraux qui manifesteront d'ailleurs jeudi. Et ils ne sont pas les seuls à se mobiliser. Les biologistes ont décidé de ne plus transmettre les résultats des tests Covid aux autorités de santé. Les patients, eux, évidemment, continueront à les recevoir. Alors, quelles conséquences sur le suivi de l'épidémie ? Réponse de Pascal Crépet.
Elles sont relativement limitées parce qu'il y a d'autres indicateurs qui nous permettent de suivre l'épidémie. Il y a bien sûr les hospitalisations, puis il y a bien sûr tous les tests antigéniques qui remontent dans les systèmes d'information. En revanche, ce que l'on va perdre avec cet arrêt des remontées des tests PCR, c'est la possibilité de suivre précisément quel type de variant circule sur le territoire et dans un contexte où l'on craint l'arrivée de nouveaux variants problématiques provenant de Chine, ce n'est certainement pas une situation idéale pour le suivi de cette épidémie.
Propos recueillis pour RTL par Nathan Bocard. Là aussi, il risque d'y avoir des mécontents si vous avez fait le plein depuis hier. Vous aurez forcément remarqué que la ristourne gouvernementale de 10 centimes le litre s'est arrêtée, c'était prévu. À la place, le gouvernement a dégainé un nouveau dispositif, un chèque carburant, 100 euros par an pour 10 millions de personnes qui ont besoin de leur véhicule pour pouvoir aller travailler. Une condition toutefois, avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 14 700 euros. Aux automobilistes donc de faire la demande. Mais vous pourrez constater que même chez ceux qui en bénéficient, le compte n'y est pas toujours. Illustration à Tours en Indre-et-Loire avec Christian Panvert.
Steven, 36 ans, travaille dans le domaine médical, Flora, 34, dans le secteur de l'insertion professionnelle. Ils ont deux enfants en bas âge. Le prix des carburants grève le budget du ménage, car ils se déplacent chaque jour en voiture.
50 km par jour.
Ça représente un vrai coût.
Depuis quelques mois, oui. Un plein, on dira à 100 euros, donc 200 euros par mois.
Ah, moi, je suis sur un poste mobile. Du coup, ça va être un plein par semaine. Tout dépend des endroits où je suis.
À deux, ils gagnent près de 4000 euros net par mois. Ils ont donc droit à l'indemnité carburant de 100 euros. Mais il la considère très insuffisante.
Je préférais la remise au carburant parce que là, 100 euros par an, c'est rien du tout.
100 euros par an en fonction du gabarit de la voiture, c'est un bon plein, de petits pleins, on va dire, mais c'est tout.
Et pour Steven et Flora, il est quasiment impossible de se passer de la voiture.
Comme je change régulièrement de site, en matière logistique, ce serait compliqué à gérer.
Alors, c'est clairement pas possible. Je serais obligé toujours de me déplacer, donc on va toujours être obligé de mettre du gasoil ou de l'essence et faire des pleins toutes les semaines ou tous les 15 jours.
Comme ces derniers mois, ils vont faire des économies sur les sorties.
Christian Panvert, donc à Tours, en Indre-et-Loire, pour RTL.
La bûche.
RTL Midi.
La bûche
de Noël, à peine digérée, place à la galette.
Et une certitude déjà, votre frangipane n'échappera pas à l'inflation. En boulangerie comme au supermarché, les prix vont augmenter. Évidemment, la galette artisanale est plus chère, mais est-ce que ça vaut le coup ? Antoine Cavallero a fait le test à la boulangerie Maison Marquise à Chevilly-Larue, où il a demandé à un client de deviner à l'aveugle l'origine de deux galettes.
On y va ? Vous vous bandez les yeux ?
Ok.
Alors on y va.
Ça c'est... Je peux pas le dire quand j'ai fini les deux.
Alors on y va pour la deuxième.
Je vais dire la vérité. C'est la première, c'est les meilleures galettes. Ça c'est rien du tout. Je sais pas c'est quoi là-dedans.
Voilà. Eh ben voilà, vous n'êtes pas trompé. Bravo à vous. Je me tourne vers vous, Hakim. Vous êtes le boulanger, le propriétaire de cette boulangerie. Je rappelle le prix de votre galette. Elle est à 20 euros. Celle que j'ai achetée en grande surface, qui n'a pas beaucoup plu à Mohamed, elle se vend 10 euros. Comment on explique la différence de prix ?
Tout d'abord, par les matières premières. Comme on lisait l'emballage, on s'apercevait qu'il n'y avait quasiment pas d'œufs, que la poudre d'amande est aussi absente en termes de goût. Parce que la première chose qu'il a dit quand il l'a goûté, il a dit : je ne sais pas ce que je goûte.
Et vous, votre galette, pourquoi elle coûte plus cher ?
Déjà parce que c'est nous qui la faisons, pas un robot, parce que forcément les matières premières sont beaucoup plus chères parce qu'elles sont beaucoup plus qualitatives et elles coûtent plus cher parce qu'encore une fois, une galette que nous faisons, entre le démarrage et la fin, il y a 6 jours qui s'écoulent. Donc quand on met 6 jours à préparer un produit, c'est qu'on le manipule énormément. Tous les jours, on le sort, on le retravaille, on le remet au froid pour qu'il repose. Donc voilà la différence de prix.
Votre galette qui a malheureusement subi l'inflation, elle a augmenté de 15% par rapport à l'an dernier. Oui. Heureusement, elle a été sacrée meilleure galette d'Île-de-France.
Antoine Cavallero pour RTL et ce test de la galette, vous pouvez évidemment le reproduire chez vous, gare aux calories, c'est tout.
Nous partons pour le Vatican dans une seconde avec Marie Guerrier. On va s'interroger sur l'héritage de pape émérite Benoît XVI. À tout de suite.
Avant ça, si ça vous fait rien, on va faire un petit mot de météo avec Louis, privé de galette, mais, oui, mais pas de météo.
Mais pas de météo, merci.
Louis, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi? Vous avez dit de la douceur, même si ça se refroidit un petit peu.
Un petit peu, en tout cas, ça sera effectivement moins doux que durant ce week-end, mais ça restera un peu au-dessus des moyennes de saison, hein, si on commence par les températures. C'est vrai d'ailleurs qu'il fera par endroits plus frais cet après-midi que ce matin. C'est dû à l'air un peu plus frais qui arrive par le nord-ouest après la perturbation qui, elle, traînera encore dans les régions de l'est. Alors, si on commence par les températures, cet après-midi, 10 à 13 degrés dans la moitié nord, c'est encore 4-5 degrés au-dessus des moyennes de saison, 16 à 19 degrés dans les régions du sud-est, tout ça donc avec une perturbation qui apportera de la pluie dans les régions de l'est, pluie et un petit peu de neige, j'en vois là un peu sur les Pyrénées, un peu plus tard ça sera sur les Alpes à partir de 1800-2000 mètres à peu près, et puis derrière cette perturbation, retour d'éclaircies, c'est déjà le cas entre la Bretagne et la Normandie, puis ça sera le cas cet après-midi de l'Atlantique aux côtes de la Manche, mais avec encore des averses, et donc c'est température toujours très douce.
Temps couvert à l'est, vous disiez, oui. On s'attend donc à de la pluie à 15h pour le match de Ligue 1 Strasbourg 3. C'est la suite de la 17e journée, 15h donc Strasbourg 3, à 17h Lille-Reims, 19h Montpellier-Marseille et à 21h Rennes affrontera Nice.
Le Vatican dans une seconde.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Praud. RTL Midi. Pascal Praud et Céline Landreau.
Cette année, moi, j'ai senti que mes forces avaient diminué et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour prendre la juste décision pour le bien de l'Église. Je vous remercie pour le respect et la compréhension avec lesquels vous l'avez accueilli.
C'était en 2013. Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI, renonçait à ses fonctions. 9 ans plus tard, il s'est éteint samedi à l'âge de 95 ans et sa dépouille repose depuis ce matin à la basilique Saint-Pierre de Rome. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyée spéciale au Vatican, spécialiste des questions religieuses ici à RTL. Vous êtes donc à Rome où des milliers de personnes patientent déjà pour rendre un dernier hommage à Benoît XVI.
Oui, les premiers sont arrivés tôt ce matin. Dès 5h30, me disait Paul, un jeune Écossais qui vit ici à Rome. Puis il voulait absolument venir remercier Dieu pour avoir donné à l'Église un pape comme Benoît XVI. C'est ce que pensent les fidèles qui ont fait le déplacement. Il y a aussi des touristes initialement venus visiter la basilique Saint-Pierre, l'un des plus grands au monde, un joyau architectural. Et aujourd'hui, ils ont la sensation de vivre un moment particulièrement historique. Ceux que l'on croise à la sortie de la basilique parlent d'une très grande solennité à l'intérieur. Le pape émérite repose au pied de l'autel qui est surmonté d'un immense baldaquin avec 4 piliers de bronze torsadés.
Ce pape restera dans l'histoire comme étant le premier à avoir renoncé à sa charge, mais quel héritage lègue Benoît XVI ?
Justement, ce qu'il lègue d'abord, c'est l'humilité, la sagesse, le courage. Il a reconnu ses faiblesses physiques, il a reconnu sa fragilité et qu'il ne pouvait plus assumer ses fonctions et il est parti. En ça, il a ouvert une voie, il est allé à l'encontre de siècles d'histoire papale et son successeur, François, a déjà dit qu'il ferait la même chose hein, si sa santé devait chanceler. Alors ensuite, l'héritage de Benoît XVI, il est spirituel avec 2 mots qu'il a fait résonner ensemble, la foi et la raison. Tous les religieux et les fidèles qui s'intéressent à la théologie que je croise ici à Rome ont retenu ça hein, de lui. Benoît XVI a beaucoup écrit, ses écrits sont des références. Il était professeur d'université en Allemagne avant d'être appelé au Vatican par Jean-Paul II au début des années 80. L'abbé Ratzinger a travaillé sur les liens entre science et foi, toute la notion de vérité. Et puis une fois devenu pape, dans ses encycliques, il s'est attaché à développer toute la substance de la foi catholique, amour, espérance, charité. Il est aussi l'auteur de toute une littérature sur Jésus qui parle à tout le monde d'accès très, très simple, très facile pour parler au plus grand nombre.
Marie, on le disait, traditionnel, conservateur Benoît XVI.
Oui, alors par contre, au moment de Vatican II, le concile qui a transformé l'Église pour la faire entrer dans la modernité dans les années 60, ben, c'était tout le contraire. Il était considéré comme progressiste. Il a défendu une Église qui parle au monde, à commencer par les messes, hein, dans la langue de chacun des pays et pas uniquement en latin. Ça, c'était la grande transformation de Vatican II. Alors évidemment, ensuite, quand il a été pape, oui, il a tendu la main aux traditionalistes. Ça a été mal perçu par ceux qui combattent les intégristes. Mais il s'en est expliqué. Il préférait, disait-il, des concession à une église qui se déchire. Il voulait de l'unité. Benoît XVI, il aimait la liturgie, tout le cérémonial qui accompagne les messes, dans des petites choses très concrètes, comme les nappes, les dentelles. Alors, c'était une certaine idée de la beauté de la liturgie, que certains jugent accessoire ou trop ostentatoire. On le voyait aussi hein, dans sa manière de porter les attributs des papes. Vous savez, les tenues vestimentaires, il avait ce qu'on appelle la mosette, la petite cape rouge, où il portait aussi les mocassins rouges. Tout ça, ça a été abandonné par le pape François. Puis, si le mot conservateur, pour vous, ça, c'est parler de la doctrine et de la morale, alors oui, il était contre l'avortement, contre l'euthanasie, contre le mariage des prêtres, l'ordination des femmes. Mais si vous regardez de près, en fait, le pape François, il dit aujourd'hui exactement la même chose. Puis, il y avait eu une polémique sur le préservatif. Benoît XVI avait fini par admettre à la fin de son pontificat que le préservatif était utile pour lutter contre la propagation du sida.
Et c'est difficile d'imaginer un jour un pape pour l'avortement, en tout cas pour le droit des femmes à avorter, Marie, bien évidemment.
Non, alors après, c'est l'accueil qui est fait de ces femmes qui évoluent évidemment dans la manière de l'Église d'aborder ces sujets.
Dans la lutte contre la pédophilie, qu'est-ce qu'il faut retenir de son action ?
Il est le premier pape à avoir rencontré des victimes, à avoir demandé pardon, et il a pris les premières mesures. Il a excommunié des prêtres. Il est donc le premier à avoir affronté le scandale, mais évidemment, ce n'était que le début. Et cette année encore, en 2022, l'année dernière, puisqu'on est déjà en 2023, alors l'année dernière, en 2022, faut s'y faire, il a été mis en cause par un rapport allemand pour son inaction lorsqu'il était archevêque de Munich dans les années 70. Vous voyez, c'est un sujet qui jusqu'au bout était assez tenace dans la vie de Benoît XVI. Bon, il a été le premier à dire tolérance zéro sur la pédophilie. On voit bien que François, aujourd'hui, a encore beaucoup de difficultés, beaucoup de mal avec l'application de cette règle.
Le pape a longtemps été, pendant des siècles, l'un des hommes, en tout cas les plus puissants du monde. Quelle place il occupe encore aujourd'hui, Marie ? Quel poids a-t-il ?
Alors, c'est un poids, souvent on dit diplomatique. En tout cas, les papes aujourd'hui veulent être des facilitateurs de dialogue. Alors, entre les nations, entre les peuples, entre les religions. C'est le cas de tous les papes qu'on a dit voyageurs, ceux qui ont été élus après la Seconde Guerre mondiale. Alors, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et ses innombrables voyages. Benoît XVI a aussi beaucoup voyagé alors qu'il n'aimait pas ça initialement. Et puis évidemment, aujourd'hui, François. Tout ça pour faciliter le dialogue. Parfois, ça fonctionne. Alors, on peut citer plus récemment, par exemple, le rapprochement entre Cuba et les États-Unis, ça, le Vatican a beaucoup œuvré, le pape en sous-main. Mais évidemment, la réussite n'est jamais garantie. On voit bien qu'actuellement, François s'y casse les dents entre la Russie et l'Ukraine. Il voudrait pouvoir renouer ce dialogue.
Merci beaucoup, Marie Guerrier, envoyée spéciale de RTL, donc au Vatican, pour suivre cet hommage à Benoît XVI.
Et si vous nous écoutez, désormais sur la bande FM, vous ne pouvez plus nous écouter sur les grandes ondes, et si vous nous écoutez, c'est forcément que vous avez compris comment nous écouter. Donc en revanche, les grandes ondes, c'est fini. Laurent Marsic va nous en parler dans une seconde. A tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter midi.
C'est l'heure de parler culture et depuis hier soir, RTL a cessé sa diffusion en grande zone face à la crise énergétique et la nécessité d'améliorer son bilan carbone. Le groupe M6 a mis en place un plan de sobriété. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Avant de nous raconter les grandes heures des grandes ondes, Laurent, on commence par une question très pratique. Comment on fait pour continuer à écouter sans passer par ces fameuses grandes ondes ? Alors, on imagine que les gens qui nous écoutent le savent, mais qu'est-ce qu'ils conseillent à leurs voisins leur...
Alors, il y a plusieurs solutions. Il y en a trois, exactement. Si vous habitez dans une zone, et ça peut être le cas, une zone desservie par la FM. Je vois passer beaucoup de messages d'auditeurs et d'auditrices sur les réseaux sociaux qui découvrent que leur ville est couverte par une fréquence RTL en FM. Ah bah, tout simplement, vous allez sur le site rtl.fr, vous regardez la ville la plus proche de chez vous, voire votre ville qui va peut-être apparaître, vous avez la bonne fréquence, vous rentrez ça dans votre poste en cherchant, et là vous tomberez sur RTL. Si c'est pas le cas, vous pouvez passer par votre téléphone portable, il y a l'application RTL qui fonctionne. Si vous avez internet, vous pouvez écouter aussi sur un ordinateur ou une enceinte connectée. Ça marche aussi pour nos amis par exemple qui sont en Belgique, au Luxembourg et partout dans le monde. Enfin, il y a quelque chose qui se développe en ce moment en France, qui est le DAB. C'est une norme qui équipe désormais toutes les voitures neuves, par exemple. C'est pour ça qu'il faut investir dans un petit poste. Ça coûte à partir de 20 euros. Ça ne fonctionne pas partout, mais d'ici 6 mois, la majorité du territoire devrait être couvert. Et si vous avez un problème avec les grandes ondes et que vous n'y arrivez toujours pas avec toutes ces solutions-là, il y a un numéro de téléphone, le 01 41 92 44. 40, c'est les services relations auditeurs qui peuvent vous aider.
Bon, question piège peut-être. Est-ce qu'on sait le pourcentage d'auditeurs qui écoutaient encore RTL en grandes ondes ?
Non,
Oui, parce que j'ai l'impression que c'est très rare quand même, ceux qui devaient écouter, si, c'était infinitésimal sans
beaucoup
doute.
Beaucoup de routiers qui témoignent, des gens qui habitent dans des zones, ce qu'on appelle les zones blanches, où vous avez du mal à avoir et de l'internet, du téléphone, etc. Et puis ceux qui sont dans les...
Parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde des auditeurs, c'est pour ça que je pense à ça, bien évidemment.
C'est pour ça qu'on propose des solutions.
Céline.
À propos des grandes ondes, Laurent, il existe une histoire assez peu connue de l'émetteur de RTL, l'histoire d'une opération secrète pendant la Seconde Guerre mondiale. Racontez-nous.
Alors, on est en 1944, le 10 septembre exactement, les Américains vont libérer le Luxembourg. Et donc, ils libèrent RTL qui s'appelle alors Radio Luxembourg. Les studios sont encore là, ils sont un peu abîmés par les soldats allemands, les nazis. L'émetteur tient encore debout, mais surtout, il fonctionne et les Américains vont relancer assez rapidement la radio.
Méfiez-vous des tentatives allemandes qui veulent vous induire en erreur. Nous venons de vous lire un important avertissement qui s'adresse aux auditeurs de Radio Luxembourg.
Pendant la journée, c'est ce qu'on entend là, les Américains vont diffuser ce qu'on appelle de la propagande blanche, c'est-à-dire plutôt pro-américaine. Vous aviez aussi des messages de la Croix-Rouge internationale, etc. Mais ce qu'on ne savait pas, ce qu'on sait moins, c'est qu'en parallèle, le bureau secret de l'armée américaine, le bureau de la guerre psychologique de la 12e armée, très précisément, va lancer une opération baptisée Annie. Annie, c'est le nom d'une villa qui se trouve au Luxembourg, qui est cachée dans une forêt. Et dans cette villa, ils vont installer une radio, une fausse radio pirate qui utilisait l'émetteur grandes ondes de RTL la nuit entre 2h et 6h du matin. Pour créer et faire fonctionner cette radio, ils vont recruter des universitaires, des journalistes, des artistes, des soldats qui ont tous un point commun. Ils parlent allemand, mais surtout un allemand quasiment local, presque un patois, presque l'alsacien. Ces hommes vont être enfermés dans cette villa, qui était occupée pendant la guerre par un dignitaire nazi. Ils ont même raconté qu'il y avait encore des bustes d'Adolf Hitler, des drapeaux nazis, etc. à l'intérieur. Et ils vont doter, évidemment, ils vont monter une vraie radio, ils vont doter cette radio d'un générique qui avait été baptisé en secret et en interne « Cheval de Troie ». Et tous les soirs, leur émission commençait comme ceci. La petite musique qu'on entend au début, en fait, ça permettait de caler son poste sur cette radio. Et puis le monsieur dit, c'est Radio 1212, Radio 1212 qui vous appelle. 1212, c'était la fréquence.
Et donc au départ, cette radio, Laurent, va tout faire pour gagner la confiance des commandants allemands.
C'est ça le génie, en fait. Ils avaient pris soin de modifier d'abord la fréquence d'émission pour que les auditeurs ne fassent pas le lien avec les émissions de la journée. Ensuite, ils avaient plein d'infos que l'armée américaine leur glanait sur le terrain. Il y avait même des prisonniers qui étaient emmenés dans cette ville à Annie et à qui qu'on interrogeait pour réussir à récupérer des infos. Et justement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont informer le plus justement possible sur la guerre, mouvement de troupes, victoire, défaite, décoration de tel ou tel soldat, etc. Tout ça... pour gagner la confiance des Allemands. Et au départ, 1212 est pro-allemande. Le groupe d'hommes qui anime cette radio se présente comme des résistants allemands. Ils veulent tourner la page du nazisme, si vous voulez, en gros, y construire une nouvelle Allemagne. C'est ce qu'ils essayent de faire. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, le 15 décembre 1944, il est 2h15 du matin, et voilà ce que va annoncer le speaker. Là, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il s'apprête à communiquer les noms de tous les villages qui ont été occupés par l'ennemi au cours des dernières 24 heures. Il donne des nouvelles du front. Il explique qu'il y a eu des avancées américaines sur un front de 80 km, etc. Et tout ce qu'il raconte là, j'ai vérifié, c'est vrai.
Et puis en 45, tout devient faux.
Exactement. Dès janvier-mars 45, là, plus aucune information n'est vraie. L'enjeu, c'est la bataille du Rhin, les Ardennes. Il faut tout faire pour désorganiser les Allemands. Et Radio 12 va alors annoncer des victoires des Alliés qui n'existent pas. Ils vont annoncer que les Américains sont en passe de franchir le Rhin, alors qu'en fait, c'est pas encore vrai. Ils sont hyper loin, etc. Tout ça va désorganiser l'armée allemande et gêner le retrait des troupes. Et vous, dans cette archive là qu'on entend, ils sont juste après la prise du pont de Remagen, le dernier pont intact sur le Rhin. Et en fait, les troupes nazies sont réfugiées dans des montagnes. Elles peuvent s'enfuir par où elles veulent. Mais Radio 1212 va leur dire, il y a un seul chemin pour sortir de cette colline. Tous les soldats allemands vont prendre ce chemin. Au bout, il y a les Américains qui les attendent et qui vont les faire prisonniers.
Et le 25 avril 45, Laurent, l'opération Annie prend fin.
Exactement. Vers 2h du matin, il y a la voix du speaker qui est interrompue par des bruits. On tire dans le studio, on entend des bruits de mitraillettes, des cris de disques. Il y a un type qui dit, lancez un disque. Et Radio 1212 s'arrête définitivement. Les Américains, en fait, ont fait la jonction avec les troupes soviétiques. Hitler va se suicider 5 jours plus tard. Et donc, ils l'arrêtent. Septembre 45, l'armée américaine rend les clés de Radio Luxembourg aux Luxembourgeois. Et en France, on rouvre l'antenne aussi rue Bayard.
Voici
avec ça.
De la famille, présentation Louis Merlin.
À notre micro, Louis Merlin.
Mais oui, voici l'alphabet de la famille.
La voici de retour, pareille à ce qu'elle fut dans son titre, dans son visage, dans son cœur.
Et si histoire par extraordinaire.
Hein. Ouais. Louis Merlin qui créera plus tard Europe 1.
Pendant 100 semaines sous l'occupation, vous allez l'entendre.
Merci. Merci beaucoup pour cette histoire tout à fait étonnante. Il va bientôt être 13h. L'info revient et les auditeurs avec. À tout de suite.
RTL Midi.